Bon, revenons sur une autre histoire qui a tellement fait jaser à l'époque, celle de l'ex-juge Jacques Delisle. Son histoire refait surface. Pourquoi? Ben parce qu'il aura droit à un nouveau procès. Après une attente de plus de 6 ans, l'ex-juge Delisle voit sa demande de révision judiciaire être finalement acceptée en dernier recours. C'est le procureur général du Canada, aussi ministre de la Justice, qui ordonne la tenue de ce nouveau procès. Je le cite, « Après un examen approfondi et la découverte de nouveaux renseignements, je suis convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de conclure qu'une erreur judiciaire s'est probablement produite et qu'un nouveau procès est nécessaire. » Alors, c'est tout un revirement de situation pour lui qui purge une peine de prison à vie depuis 2012 pour le meurtre de sa conjointe, meurtre prémédité. Alors, Isabelle Richer est avec nous. Bonjour, Isabelle.
Bonjour, Patrick.
Bon, il faut rappeler d'abord les grandes lignes de cette histoire. Là, ça avait vraiment fait beaucoup de bruit à l'époque.
Oui, absolument. Alors, Mme Rainville est morte en 2009. À l'époque, on a classé ça comme un suicide. Alors, c'était quelque chose réglé. Mais ensuite, disons que l'enquête s'est poursuivie, et notamment parce qu'on a découvert que M. Delisle avait une relation extra-conjugale. Mme Rainville était handicapée à la suite d'un ACV. Alors, ça l'avait laissé un peu diminuer. Et les soupçons se sont mis à se tourner vers M. Delisle et il a fini. Parce que comme Mme Rainville était un peu diminuée, bien, elle n'aurait pas pu aller chercher le revolver de M. Delisle là où il était caché dans la maison pour se suicider. Alors, il y a eu des expertises et les expertises ont démontré qu'elle ne pouvait pas s'être elle-même emparée de l'arme et avoir tiré une balle là où on l'a retrouvée dans son cerveau. Alors, c'est pour ça que M. Delisle a été accusé du meurtre et finalement condamné. Et malgré tous les appels, il n'a pas réussi à faire casser le verdict et à obtenir un nouveau procès.
Oui, c'est ça, parce que lui, il a toujours clamé son innocence et il s'est battu en cour là, pour ça devant la Cour d'appel du Québec, même la Cour suprême qui a refusé de l'entendre, mais c'est pas grave.
Vous dites, Patrick, il a clamé son innocence, mais il ne l'a jamais clamé à son procès. Et c'est ça qui était un peu surprenant.
Parce qu'il a, il a utilisé son droit au silence. Il a refusé de témoigner, finalement.
Exactement. Alors, c'est ça. C'est une chose assez étonnante. Écoutez, je suis pas avocat de la défense. Je peux pas vous parler de stratégie. Mais quand on est accusé de meurtre, c'est assez rare qu'on se tait. Sauf si on est un Hells Angels. Les Hells ne témoignent jamais. Les bandits de grand chemin, là, les gens du crime organisé ne témoignent pas pour protester de leur innocence. Mais dans les cas de meurtre en général, les accusés vont toujours avoir une défense, une version à offrir. Et c'est ce à quoi on s'attendait de la part de M. Delisle. Et il ne l'a pas fait. Il n'a pas parlé à son procès. Alors, la théorie de la Couronne avait toute la place et c'était une bataille d'experts. Les experts de la Couronne disaient « C'est impossible que Mme Rainville, avec sa main ou son bras invalide, ait pu tenir l'arme et tirer. » La façon dont la trajectoire de la balle à travers la boîte crânienne, c'est impossible qu'elle soit entrée de telle façon. Et du côté de la défense, on a fait témoigner d'autres experts qui disaient « Absolument, c'est possible. » Mais quand c'est une bataille d'experts, il nous manque un peu le nœud de l'affaire, c'est-à-dire la version de l'accusé qui avait décidé de se taire, se comportant comme un vrai homme de loi, c'est-à-dire le jury n'en aura jamais assez pour me condamner. Ça, c'est une façon de voir, c'est vraiment un réflexe de juriste de se dire, quand le jury a ceci devant lui, eh bien, il n'en aura jamais assez pour prononcer un verdict de culpabilité. Ouais. Mais le monde normal, vous et moi, on veut entendre des choses. Alors, les expertises, c'est très bien, c'est très utile, mais tant qu'on n'a pas la version de l'accusé, il subsiste toujours quelque chose de pas net.
Oui, c'est ça. Lui a tout misé sur le doute raisonnable, puis ça n'a pas fonctionné. Alors là, il faut être clair, là, il n'est pas innocenté. Fait le ministre de la Justice, c'est qu'il lève le verdict de culpabilité. Donc, M. Delisle retrouve sa présomption d'innocence. Il demeure accusé, à moins que du côté du DPCP, on décide de retirer les accusations une fois qu'on aura étudié ces nouveaux renseignements. Alors ça, c'est intéressant, Isabelle, je veux qu'on en parle. Mmh. On n'a pas utilisé du côté du ministre de la Justice et donc du procureur général l'expression « nouvelle preuve ». On dit « selon de nouveaux renseignements ». Ça veut dire quoi?
Oui. Bien, en fait, c'est le critère. C'est-à-dire que le ministre de la Justice a émis un communiqué hier en disant qu'il avait des motifs raisonnables de croire qu'une erreur judiciaire s'était produite à la lumière des nouveaux renseignements qui ont été déposés. C'est le critère de base pour obtenir l'intervention du ministre de la Justice. C'est pas une interprétation qu'il fait, ce n'est pas un jugement de valeur qu'il pose, c'est le critère. Il faut soumettre une nouvelle preuve, c'est-à-dire une preuve qui n'était pas disponible au moment du procès, pour démontrer qu'il y a eu erreur, soit qu'on a caché de la preuve, ou, comme je vous dis, une preuve qui n'était pas disponible au moment du procès. Alors, là, évidemment, on ne les a pas vus, nous, les rapports qui ont été produits par les avocats, notamment James Lockyer, qui est le grand, grand spécialiste des erreurs judiciaires au Canada. Alors, Monsieur Lockyer, Maître Lockyer, a déposé un tas de rapports au groupe de révision des condamnations criminelles. On ne sait pas ce qu'ils contiennent, ces rapports, mais on sait qu'il s'agit d'expertise parce que, selon lui, l'erreur judiciaire a été commise dans les expertises qui ont été déposées, une expertise balistique probablement. Alors, il a fait au procès une contre-expertise, mais visiblement, il en a ajouté qui n'était pas disponible au moment du procès. On est tous très curieux de savoir en quoi ça consiste. Bien, on le saura peut-être s'il y a un nouveau procès. Okay. En tout cas, ces choses-là seront étudiées assurément par le DPCP.
Quelle histoire quand même. Ouais. Isabelle Richer, je vous remercie beaucoup.